Voilà, dernier volet de cette émission. Voilà, ça, on va parler aujourd'hui de travaux de haute technologie, même très haute technologie, avec une société qui réalise des traitements de données satellitaires, notamment de la modélisation atmosphérique. Et cette société, elle fête ses 25 ans, preuve que dans notre région, il y a des sociétés qui résistent au temps et puis qui se développent. Et donc, j'ai invité deux de ses représentants ici. Alors, Didier Ramon, bonjour.
Bonjour.
Et puis, quelqu'un qui va se présenter, qui n'est pas forcément un inconnu.
Non, merci René, c'est Dominique, hein, pareil, Digios. Mais j'ai longtemps œuvré à Radio Campus Lille, sur le 106,6 FM, comme on disait
tu
à l'époque.
Vois, ça mène à tout. Hein.
Voilà, diplomatiquement vôtre, tous ces mots terribles. Pendant un paquet de moments, quand justement j'ai connu Radio Campus, quand j'étais étudiant, il y a en 1991-92, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, René, d'ailleurs.
Ouais, et puis on pourrait peut-être même dire que Christian est quelqu'un aussi d'intéressé par l'atmosphère et ces choses-là. Christian, qui est le fondateur de la radio, hommage à lui, hein, bien sûr. Et donc voilà, on peut dire qu'on a tous dans nos rêves quelque chose de spatial, sinon de spécial.
Tout à fait. D'ailleurs, on connaît très très bien Christian.
Christian, parce que qui était mon collègue pendant plusieurs années au laboratoire d'optique atmosphérique, avant que je fonce l'IGO, c'était mon collègue et déjà, il m'avait introduit chez Radio Campus et que je retrouve avec plaisir.
Voilà, donc comment on pourrait préciser à la fois ce qui se fait en région dans votre domaine et ce que vous apportez en tant que société à la France d'une manière générale? On parle beaucoup actuellement de remettre la main sur les technologies qui filent à l'étranger. Comment vous vous situez par rapport à ça? Didier Ramon, comment on pourrait vous définir en termes de force de frappe?
Eh bien, en fait, on est parti d'un constat, c'est que il faut aussi, par moment, faire subsister des talents, des compétences, éventuellement des technologies, localement. Et ce n'est pas toujours facile lorsque l'on vient du milieu de la recherche, et c'est le cas de Dominique et moi, et en plus de la recherche locale, puisqu'on est tous les deux issus de laboratoires de l'Université de Lille 1, laboratoire d'optique atmosphérique, pour ne pas le citer, celui de notre ancien collègue Christian Verbard. Et ensuite, lorsque ces talents, ce savoir-faire a été cumulé, que vient-il? On peut bien sûr envisager une carrière académique, mais il était également possible et souhaitable à l'époque, parce que le nombre de postes était restreint, de continuer, mais avec sa propre structure. Donc une société, bien sûr, c'est la seule façon d'embaucher quelqu'un sur du long terme. On pourrait parler peut-être d'association, mais c'est vraiment marginal. La façon de continuer une activité, c'est une société, mais en même temps, on veut continuer une société avec une certaine vision sociale, avec une certaine vision intellectuelle et avec comme but de continuer à faire de la recherche. On n'est pas parti dans la dichotomie absolument pure qu'on nous présentait à l'époque. La recherche, ça se fait dans les labos. Les industriels font des satellites, ils font des études, mais les deux sont un peu étanches. Et nous, on s'est dit, c'est vraiment bizarre, puisque à la fois, on a besoin de faire des choses concrètes, même quand on est dans des labos. Il faut construire des instruments, il faut avoir un calendrier en tête, il faut développer des choses dans le domaine spatial, c'est sérieux. On ne peut pas se permettre de faire des petites expériences, je dirais, de bout de chandelle. Il faut quand même une certaine robustesse. Et inversement, on avait besoin aussi, dans l'industrie, un peu de sang neuf et d'une alternative au tout ingénieur, tout maths-sup, tout diplôme d'ingénieur. On voulait aussi des gens qui participent à la recherche. Alors, il y avait le début des bourses chiffres et d'une certaine transfert des savoir-faire d'université en termes de chercheurs vers l'université, mais c'était très naissant. Il y a 25 ans, quand j'ai créé, c'était assez marginal. La loi sur l'innovation n'était pas encore passée. Il n'y avait pas de porosité très nette entre recherche et industrie. Et moi, je me suis dit, je pense qu'il est temps de faire quelque chose, et j'ai voulu le faire sous forme, je dirais, coopérative, on en parlera plus tard, pour garder cet esprit, en gros, de continuité sur le long terme et, je dirais, d'alternative au capitalisme pur et dur, à savoir les start-up. Il faut beaucoup d'argent, il faut rassembler beaucoup de fonds pour commencer, et puis tout de suite une dilution de la direction de la société avec des inconnus. Nous, on voulait que ce soit vraiment les gens, les chercheurs, les gens appliqués qui soient aux commandes. Donc voilà tout ça comme constat au départ.
Donc votre objectif n'était pas de devenir une licorne?
Ah, la licorne, je ne savais même pas que ça existait. C'était un terme qui était inconnu à l'époque.
C'est ça, c'est comment, c'était aussi la question, et c'est comment allier ce qu'on aimait faire, ce qu'on voulait que ce soit notre profession, notre activité, au moins pendant de nombreuses années, et dans quel cadre. Et voilà, je pense que ça répondait à ces deux questions-là. C'est vrai que ça a été une époque où il n'y avait pas beaucoup de liens. Bon, bah, on s'est tous les deux un peu exportés, hein. Tu as fait différents postes d'ingénieur de recherche dans différents labos d'université, mais toujours sur des petits contrats, des petits CDD qui se renouvelaient. Moi, j'ai été bosser, quelques années à la Météorologie nationale aux Pays-Bas. Après, je dis, je vais revenir en France, et il n'y avait pas beaucoup de passerelles. Et puis, quand Didier m'a contacté, c'était une évidence. Après, voilà, c'est une activité, tant qu'à faire, quand on bosse, autant faire quelque chose qui te plaît.
Donc, vous êtes constitué en SCOP, c'est bien ce que j'ai cru comprendre.
Oui, donc les statuts ont été déposés en octobre 2001, c'est pour ça que là on est au 25e anniversaire du dépôt des statuts, et c'était une volonté, je dirais un petit peu même théorique, parce que je n'avais pas beaucoup de pratique de l'entrepreneuriat, et il m'a semblé que c'était des bases saines à l'époque, qui garantissaient une vision démocratique et égalitaire de la société, sachant que le but derrière étant de constituer quand même un labo de recherche privé, en fait, quelque part, avec une certaine camaraderie d'abord, et puis une certaine horizontalité qu'on aime bien dans le milieu de la recherche. Alors des fois dans le milieu de la recherche il y a aussi de la verticalité, on en a eu d'expérience, et généralement elle n'était pas bonne, c'est-à-dire que la verticalité elle était autoritaire, elle était anti-créative, et on préférait partir sur un outil travail, puisque ça on commençait de zéro, donc autant jeter les bases de quelque chose qui est horizontal par nature, et la SCOP m'est paru comme le bon outil. Et il s'est trouvé que c'est l'expérience en pratiquant qui s'est avéré que le choix était bon. Ça aurait pu être un choix mauvais qui n'aboutissait à rien, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de modèle économique de start-up, entre guillemets, de petites structures issues de la recherche, avec une volonté quand même de faire de la technologie de haut niveau et de maintenir une qualité scientifique de haut niveau. On n'avait pas d'expérience, on n'avait pas d'exemple. Les seuls exemples que l'on avait, c'était soit en termes un petit peu de jargon administrativo-technologique, les spin-offs ou les start-up, donc des concepts qui venaient un petit peu de l'étranger, ou d'une certaine façon de voir les choses, et on n'avait pas d'exemple comme ça. Il y avait juste à l'époque une entreprise innovante dans le domaine des biotech qui était sous forme de coopérative et qui existait avant nous, qui venait d'être créée en fait, et je pense qu'elle a disparu depuis, dans la Somme, autour des biotech. Ils étaient à peu près comme nous, une dizaine de salariés. Et donc voilà, il y avait tout à construire.
Est-ce qu'on peut dire que passer de l'université à ce type de société, c'est passer de la recherche à la recherche et développement?
Alors on peut dire ça, mais effectivement, moi je venais d'une pratique de laboratoire, il y avait de la recherche, mais aussi on construisait des instruments, aussi on allait sur le terrain, notamment je me souviens très très bien de campagne de mesure avec Christian Verwaard, qui était aussi par exemple constructeur d'instruments. Et du coup, franchement, après 25 ans d'expérience, je peux dire qu'il y a vraiment une étroitesse de pratique entre l'université et les laboratoires. Alors bien sûr, l'université dans le cadre d'un laboratoire, je dirais, encore assez appliqué. Il y a des laboratoires, bien sûr, très théoriques, et là, on s'éloigne de plus en plus. Mais franchement, la distance entre recherche et la pratique de l'ingénieur de recherche à IGEOS est assez faible, et on se parle vraiment... La seule différence, c'est qu'on n'a pas d'enseignement à effectuer.
Ce que vous produisez, c'est de la donnée ou de l'interprétation des données?
Les deux. On produit de la donnée par moment, c'est-à-dire que... On va dire que la donnée, elle est toujours acquise par quelqu'un d'autre la plupart du temps, un satellite ou un opérateur tiers. Nous, on interprète, mais on transforme la donnée, on la rend compréhensible, on expertise sa qualité par moment, c'est-à-dire qu'une donnée brute, si elle n'a pas d'unité, si elle n'est pas certifiée, ne vaut rien. Et on est là pour qualifier sa qualité. C'est pas être le... Et aussi, on est là dans l'étude pure, c'est-à-dire avant que la donnée soit acquise, on peut effectuer des études de faisabilité, des études théoriques sur des futurs instruments ou des méthodes de traitement qui n'existent pas encore et qui vont permettre d'avoir des données dans le futur.
Alors dans la région, il y a Atmo, par exemple, qui utilise des informations, j'imagine, que certains d'entre vous lui transmettaient.
Alors Atmo, Ben, on a travaillé avec eux, Atmo, de parle pas. C'était au tout début d'ailleurs d'IGEOS, en 2002-2003, il me semble. Hein. Enfin, après les dates, on va pas se mélanger. Sur des premières études de qualité de l'air, c'était dans le cadre de l'Euro-région, hein, notamment avec le Kent en Angleterre, la région Flandre en Belgique, et donc le Nord-Pas-de-Calais, enfin, à l'époque Nord-Pas-de-Calais, pas Haute-France, dans le Nord. Et Atmo, ben, collectait. Il y avait les services de collecte de données au sol, hein, de la pollution, de la qualité de l'air, hein, les particules, etc. Et Didier avait lancé l'idée de prendre l'imagerie satellite. À l'époque, on arrivait à avoir des informations sur les airs au sol et les traduire en particules fines pour essayer d'avoir une... L'avantage du satellite, c'est qu'on a une couverture globale. Alors que les mesures comme Atmo fait sur place, c'est in situ. C'est valable à ce point-là, mais il n'y a pas un appareil qui est placé à 10, 20 km, etc.
Alors, donc, quand Atmo fait un bilan des 10 ans d'évolution de la pollution en région, est-ce que vous pouvez contribuer aussi à ce bilan? Est-ce que vous seriez prêt à aller plus loin?
Bien sûr. Alors, entre l'expérience d'il y a une vingtaine d'années qu'a décrit Dominique, qui était déjà précurseur pour IGEOS, c'est-à-dire à combiner à la fois des mesures classiques et normées de la pollution que font les réseaux de mesure de qualité de l'air comme Atmo. L'introduction, bien sûr, du satellite était une capacité de spatialisation de l'information pour essayer de complémenter et de rendre compte de l'exposition des populations aux particules fines, en l'occurrence, sur tout le territoire et éventuellement des transports interrégionaux. Depuis, de grands progrès ont été faits sur la modélisation de cette qualité de l'air, des transports, et à IGEOS, depuis quelques années, on a aussi une compétence importante dans la contribution à la modélisation du transport de particules. Donc on a un triptyque entre mesures in situ qui sont la référence métrologique pour effectuer des indications claires et nettes de qualité de l'air, mais le satellite et le modèle permettent de valider et de complémenter la donnée in situ. Donc on a fait énormément de progrès depuis lors pour généraliser et étendre la portée des mesures de réseaux de mesure de qualité de l'air.
Alors aujourd'hui, quand on parle de satellites, on en entend beaucoup parler. Déjà, il y en a plein partout. Comment vous avez vu cette évolution, ce nombre et cette, on va dire, évolution en qualité des satellites et en capacité surtout?
Alors ça, c'était important parce que au début d'IGEOS, on est en 2001, se lance le grand programme GMES à l'époque, qui va devenir Copernicus, que le public connaît un peu plus. Mais c'était le démarrage officiel de tout ce programme très important de surveillance de l'environnement à partir de l'espace. Et c'était dans l'air depuis quelques années, mais on sentait que c'était la direction. Et c'est pour ce que je me suis dit, c'est le bon moment pour IGEOS de se lancer au moment où les satellites vont passer de l'expérimental à l'opérationnel, ce qui était le cas uniquement pour la météorologie. Mais là, ça allait devenir le cas pour tous les satellites. Et GMES, donc Copernicus, avait l'ambition de surveiller toute la Terre, le climat, les surfaces continentales, la végétation, l'océan, l'atmosphère, le niveau des mers, les glaces, tout allait être mesuré par satellite. Donc c'était une offre de données potentiellement d'un facteur 10 ou 100 qui allait advenir dans les décennies à venir, et en plus avec une garantie à l'époque qu'on s'orientait vers le open data, c'est-à-dire des données qu'on considère gratuites et libres de droit pour pouvoir justement donner l'occasion à toutes les structures pour pouvoir les analyser. Donc on franchissait une étape complète de l'expérimental avec des données compliquées à obtenir à une abondance de données libres. Donc on s'est dit, c'est le moment d'y aller. On avait un besoin de faire une structure pour être autonome, et en plus, on s'orientait vers une grande période de foisonnement de satellites et de data.
Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ou affiner dans ce type de production?
Ah, c'est une grande question. J'irais que en termes de capteurs, on améliore toujours graduellement la qualité, la résolution spatiale, la précision, le taux de revisite, c'est-à-dire qu'on a des données maintenant quotidiennes, deux fois par jour, de certains satellites qui permettent d'avoir vraiment une... Mais ce qui manque, et ce qui a manqué pendant un certain temps, c'était les ressources humaines. C'est-à-dire que pour analyser, même avec des intelligences artificielles, même avec des data centers, du big data, tout ce qu'on veut, il faut quand même de la matière grise encore pour pouvoir produire de l'information qui est vraiment utile et qui permet de faire des changements de paradigme ou des grandes percées au niveau compréhension du système Terre. Et ça, ça reste toujours le cas. Hein. C'est-à-dire que c'était un manque de moyens et qui humains qui continue. Il faut plus de gens.
Donc, dans vos 25 salariés, combien sont issus d'une université ou des universités régionales et les autres, d'où viennent-ils?
Alors, il y a combien de docteurs à IGEOS?
11.
Il y a 11 docteurs sur 18 personnes, dont presque la moitié qui viennent de Lille, donc de l'université de Lille, hein, où est situé Radio Campus. D'autres viennent d'autres doctorats, d'autres universités, mais qui restent dans le domaine de la physique, de la géophysique, de l'environnement, etc. Voire un peu plus calcul, etc. Et donc, on est quand même déjà 4 ou 5 à venir de l'université de Lille, ce qui est déjà énorme. Hein. Donc, c'est valorisant, je dirais même, pour l'université. Et puis qu'on reste dans la région. Et il y a aussi une partie aussi un peu ingénieur qui viennent à peu près de partout. C'est, bah, j'ai envie de dire, c'est l'opportunité et les besoins. Mais il n'y a pas une préférence régionale. Après, au début, quand on a commencé, c'est vrai qu'on a eu plus un réseau. On se connaît. Ah, t'es libre, tiens, il y a ça à faire. Tiens, hop, ça a été plus des gens qu'on se connaissait d'université. Mais après, ça s'est forcément étendu.
Quel est le problème pour former des ingénieurs, des gens qui ont cette capacité que vous avez ou que vous auriez? comment on les forme et est-ce qu'on peut en former plus? Quelles seraient les conditions pour améliorer ces formations?
Alors, je dois apporter une précision, c'est qu'au sein d'IGEOS, nous avons formé des chercheurs, hein, c'est-à-dire que nous en sommes, après 25 ans, à 4 doctorants en chiffres qui ont effectué leur thèse à IGEOS. Alors, bien sûr, en co-direction avec un laboratoire de recherche et un directeur de recherche habilité, bien sûr, mais on a fait l'effort depuis très longtemps, de former des chercheurs via ce mécanisme CIFRE. Et il y en a une qui vient de commencer il y a un mois. Mais sinon, on avait déjà eu 4 soutenances de thèse. Donc ça, pour répondre à votre question, c'est une solution, c'est-à-dire que la formation en interne à la recherche. Et sinon, comment il faut former les autres? Je veux dire, moi, par expérience, il faut être sur le terrain avec un chercheur et le voir travailler au fur et à mesure de son travail. Donc, on a des ingénieurs à IGEOS qui, par leur formation initiale, sont ingénieurs, ne disposent pas du fameux PhD, du doctorat qui garantit que l'on est un chercheur. Mais néanmoins, après être au contact des 11 docteurs d'IGEOS et de très grande quantité de recherches et diverses qui est fait à IGEOS, on peut dire que la formation des ingénieurs se fait aussi comme ça sur le terrain.
Alors, on a la chance aussi d'être dans un domaine qui intéresse aussi beaucoup de personnes. Et je pense que c'est peut-être plus facile à se former, à s'auto-former pour un ingénieur à ce domaine de la recherche qui est l'environnement, l'observation de la Terre depuis l'espace, le suivi des océans, de la végétation. C'est quand même quelque chose qui est peut-être aussi, par chance, qui est très inspirant. C'est plus motivant.
Inspirant, est-ce que ça veut dire que beaucoup de jeunes seraient intéressés au départ ou est-ce qu'on peut encore améliorer la sensibilisation qui leur donne envie de faire des études dans ce domaine?
Là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibles. Hein. On a vu quand même une flambée de CV arriver de bonne qualité, spontanément, sans qu'on soit obligé de rechercher, parce qu'au départ, c'était soit le bouche à oreille, soit on était en train de rechercher des candidats, je parle des années 2000-2010. Depuis un certain temps, c'est les CV qui viennent à nous. Alors, on est un petit peu plus gros, un petit peu plus connu, certes, mais je pense que le mouvement, c'est un mouvement de fond, c'est-à-dire que une bonne partie des jeunes qui, avec une bonne qualification, sont en recherche d'un emploi à la fois dans le domaine de l'environnement, de la Terre. Ça, c'est une thématique qui les intéresse plus. Et, entre guillemets, ils sont revenus un petit peu, pour certains, d'un mode de recherche de rémunération maximale avec des jobs un petit peu classiques et qui s'orientent vers des emplois qui ont un peu plus de sens. Ça, on le sent.
Et je dirais aussi que l'aspect scope aussi est important. On va revenir là-dessus. C'est que le principe d'une scope, c'est que chaque salarié est associé. On rappelle qu'une scope, quel que soit le capital que tu détiens, c'est un homme, une voix, donc tu es associé. Je pense qu'on a de plus en plus de jeunes, hein, donc jeunes vraiment qui sortent de leur diplôme d'ingénieur, donc 23, 24 ans maximum, qui sont très sensibles à ça. Et c'est à l'époque, ça a peut-être même été un handicap. Maintenant, je dirais plus que c'est un atout.
C'est presque l'économie sociale et solidaire, les
scopes. Ah ouais.
Ça en fait partie officiellement. On est sous l'égide de ce ministère-là. Mmh. Pour moi, c'est une case que je revendique pas forcément énormément parce qu'on aura l'impression qu'on est plutôt dans l'aspect social que l'aspect économique, ce qui est vraiment pas le cas. La pratique au quotidien, c'est vraiment un mix des deux, c'est-à-dire qu'on est à fond dans le modèle, enfin dans l'économie du pays international. Il n'y a pas vraiment de différence avec les autres sociétés, ou presque aucune d'ailleurs. Et par contre, effectivement, il y a l'aspect interne d'organisation démocratique liée au SCOP qui fait que on a une petite particularité, mais on l'a longtemps, je pense. Parler d'économie sociale et solidaire, je dirais un petit peu avec un certain orientation vers le non marchand. Et je pense que c'est pas vraiment notre classification la plus pertinente quand même.
Donc, vous, ce que vous pouvez apporter, en quoi ça contribue, parce qu'il y a un vrai enjeu, au développement durable, à la remise en état de la planète, pour résumer?
Déjà, c'est faire l'état des lieux.
Oui,
mesurer, c'est bien. Faut mesurer le changement, faut voir ce qui change. Donc, faut être de plus en plus précis dans ce que tu dis. Il faut travailler sur des longues séries temporelles. On rappelle que l'observation spatiale date grosso modo de la fin des années 70, avec on va prendre les premiers AVHRR, par exemple, les premiers Nimbus américains de la NASA. Et maintenant, du coup, on arrive à avoir plus de 50 ans de séries temporelles. Donc, si on veut voir un peu les changements. Il y a de gros travail de retravailler sur la série temporelle, par exemple, parce que les instruments étaient moins performants, il faut savoir les aligner, etc. Et il y a toujours des choses à améliorer. On a toujours des incertitudes, il faut mesurer de plus en plus précisément. Il y a aussi de fortes demandes, par exemple, sur ce qui concerne la pollution, pour avoir les sources exactes de pollution. Donc, il faut travailler à des résolutions spatiales de plus en plus fines, de l'ordre décamétrique, enfin, d'une dizaine de mètres, voire même du mètre, pour voir certaines sources, pour ce qui peut, pour les expositions, par exemple, à la population. Donc, si on travaille à une haute résolution spatiale, on a un peu moins précis, donc il faut toujours améliorer un peu les outils. Donc, et ça, c'est le sujet, on a de plus en plus d'informations sur ce qui est émis, à quelle fréquence, comment, et ça, c'est hyper important pour faire l'état des lieux et pour vraiment dire, voilà, ça va, on arrête.
Alors, 25 ans d'existence, c'est une expérience, ce sont aussi des expériences. et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut dire que ce que vous aviez fait il y a 25 ans, certaines choses peuvent être encore réutilisées? Est-ce que vous avez une data de l'histoire de ce que vous avez fait qui permet de retravailler certains dossiers qu'on aurait oublié entre-temps, mais qu'on peut retrouver si nécessaire?
Il y a plein d'exemples. Déjà, la compréhension de la mesure, je dirais. On apprend tout. Enfin, on avoue, ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine, avec Didier. Si on compte nos études, même un peu plus. Sur la compréhension de la mesure, on en apprend encore chaque jour.
Oui,
donc forcément, c'est l'expérience aussi, et c'est voilà la mesure.
Je pense qu'effectivement, on acquiert de l'expérience à titre professionnel, et il y a un bagage théorique et de matière grise, d'idées qui est toujours permanent dans la société, et ça, c'est un des avantages de la SCOP, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là au début, donc nous deux, Dominique, 23 ans, moi, 25, et d'autres François, gens, d'autres collègues qui sont là depuis 20 ans. En gros, on a une très grosse stabilité du personnel, très peu de turnover, ce qui veut dire que les choses qui ont été accumulées par ce personnel, et en domaine de la recherche, c'est vraiment de l'expérience, des idées, tout ça, c'est encore dans le cerveau des gens qui sont présents. Donc c'est très, très, ça a une valeur inestimable. Après, sur des dossiers techniques, vous, un peu pour parler de la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a encore des dossiers, des datas qui étaient là? Je pense que oui, qu'on est en capacité de réactiver aux besoins, et souvent on fait du recyclage, on améliore bien sûr les méthodes ou les propositions de travail au vu des nouvelles technologies qui sont disponibles, mais néanmoins des documents, des méthodes qui étaient en gestation, qui n'ont peut-être pas abouti, hein, qui étaient des dans les cartons il y a 25-30 ans, sont toujours d'actualité, et de temps en temps on en ressort et on les remet au goût du jour. Oui, il y a une sorte de pool d'idées, de projets potentiels qui sont dans les cartons.
Alors, quand on est là depuis 25 ans et qu'on est sous forme de SCOP, est-ce que ça a un intérêt ou non de se développer?
À proprement parler, non. Le développement, moi, je le vois pour atteindre un palier de masse critique où on peut avoir une optimisation des moyens. Je pense qu'on est arrivé à peu près à cette taille Aegios depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de taille pour à la fois avoir une certaine amortissement par rapport à des fluctuations de chiffre d'affaires ou des fluctuations de rentrée d'argent. Donc on a un coussin financier qui a augmenté avec la taille. Donc ça, c'est un petit aspect positif. Et au niveau moyen, technique, d'ingénieur, si par exemple une SCOP n'a pas les moyens de se payer un personnel à temps plein pour réaliser une tâche, bon, elle est toujours obligée d'être dans le temps partiel. On sait très bien que c'est compliqué. Mais par contre, dès qu'on arrive à une taille critique pour un poste horizontal, transversal, comme un ingénieur système, un ingénieur administratif ou du matériel, c'est-à-dire un ensemble de moyens de calcul qui atteint un certain niveau, ben, on augmente notre performance, notre productivité. Après, aller au-delà, là, c'est pas du tout évident. Est-ce que passer à l'étape de 10 fois plus gros qu'actuellement, ça a un intérêt? Là, je ne suis pas sûr.
Justement, est-ce que pour faire des choses plus complexes ou plus riches, peut-être, pour des clients potentiels, vous pouvez vous associer à d'autres scopes qui travaillent dans votre domaine?
Voilà, donc la question, en fait, de la taille critique, c'est est-ce qu'on a besoin de faire partie d'une même société pour travailler ensemble? C'est pas le cas actuellement. On a vraiment une interaction au quotidien avec nos collègues, mais dès qu'on est dans une optique projet, que ce soit avec les clients, d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les agences spatiales, souvent en co-développement. Ils sont nos clients, c'est-à-dire qu'ils nous donnent de l'argent pour faire des choses, mais ils co-contribuent à la réalisation des objectifs. Et bien entendu, nous avons des partenaires qui sont des laboratoires, d'autres sociétés, éventuellement d'autres scopes, mais elles sont peu nombreuses sur le marché. Mais on en a une avec lequel, enfin, qui essaye de se transformer en scope avec lesquels on est en collaboration. Donc oui, en fait, c'est le réseau, c'est l'hyperstructure. On a forcément des chartes ou des accords de consortium ou des... On a plein de moyens de réaliser des coopérations entre des structures qui sont indépendantes. Et je pense que c'est ça qui compte. C'est pas le rachat ingestion, c'est plutôt la collaboration. Alors, collaboration sur la base d'un seul projet, et puis après on se quitte, on a fait les choses ensemble, on s'arrête. Ou alors une collaboration au long terme où on écrit des choses ensemble, où on partage des moyens. Et ça, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est plutôt cette granularité l'équipe qui peut aller de quelques personnes jusqu'à quelques centaines. Je ne sais pas où placer le curseur. En tout cas, nous, pour IGEO, c'est typiquement la dizaine.
Bien, merci Didier Ramon et merci donc Dominique Jolivet pour cette présentation d'une scope particulière qui s'appelle IGEOS et bon anniversaire des 25 ans.
Ben, merci beaucoup, merci à Campus et puis ça m'a fait plaisir de revenir, René, et puis de te revoir.
Aussi.